Europe 1, il est 7h.
Il y a vraiment une baisse de la fréquentation des services d'urgence et des appels aux SAMU et aux pompiers pour le coronavirus.
11 jours après le début du déconfinement, pas de recrudescence de l'épidémie, pas de deuxième vague. Enquête Europe 1 dès le début de ce journal. Les maires vont enfin pouvoir être élus dans plus de 30 000 communes. Les conseils municipaux se réunissent à partir de demain, mais sous le signe de la distanciation.
Ça ne sera pas dans la salle habituelle du conseil municipal parce qu'en fait elle est trop petite pour pouvoir appliquer les gestes barrières. On va se réunir dans une salle des fêtes.
Et pour les 5000 communes où il faudra un second tour, on connaîtra la date aujourd'hui. Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 ce matin, le ministre de l'économie évoquera notamment la situation du groupe Renault qui s'apprête à lancer un plan d'économie de 2 milliards d'euros. L'été 2020 ressemblera-t-il à l'été 2019 en matière de sécheresse? C'est bien possible. Plus de la moitié des départements sont déjà en alerte, surtout dans l'Est et en Auvergne. Nous appellerons une spécialiste. Et puis, seul sur le sable, les pieds dans l'eau, pas vraiment. Des centaines de plages ont rouvert, mais pas facile de faire respecter le concept de plage dynamique, comme à la Ciotat.
On n'a même pas de distance de sécurité, c'est-à-dire on est assis les uns à côté des autres à 5 cm, vous voyez, hein, et on a le sable en face de nous à 10 mètres et on n'a pas le droit.
Votre invité à 7h40, Pierre.
Francis Bartholomé, président du Conseil national des professions automobiles, pour évoquer le plan de relance étudié par Bercy pour le secteur de l'automobile en crise. 7h02 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Hélène Zélani.
Nous arrivons à la fin de la deuxième semaine de déconfinement, l'heure des premiers bilans, surtout des grandes craintes. Est-ce que l'épidémie est repartie de plus belle ou est-ce qu'elle continue à ralentir? Mathieu Charrier, vous avez mené l'enquête, même s'il est encore trop tôt pour avoir des chiffres consolidés. Les observations des médecins vont dans le même sens, celui de l'optimisme.
Les premières remontées de terrain sont unanimes, la propagation du virus continue de ralentir. Il y a d'abord les observations des médecins généralistes. Jacques Battistoni est le président de MG France, leur principal syndicat.
On observe tous une nette diminution des syndromes grippaux. Et parmi ces syndromes qui peuvent correspondre à une infection à Covid, nous faisons systématiquement un test PCR. On a presque toujours des résultats négatifs.
MG France qui estime à 4% seulement le nombre de tests qui reviennent positifs au Covid-19. Même constatation du côté de SOS Médecins qui recense 10 fois moins de suspicions Covid qu'au pic de l'épidémie. Enfin, dans les services des urgences, aussi, pas d'afflux de patients, explique Patrick Peloux, président de l'association des médecins urgentistes.
Il y a vraiment une baisse de la fréquentation des services d'urgence et des appels aux SAMU et aux pompiers pour le coronavirus. Il y a encore quelques foyers qui sont créés, mais par exemple, il y a de moins en moins d'appels concernant les EHPAD.
Ces foyers, justement, ils sont une trentaine comptabilisés à ce jour à travers tout le pays. Mais là encore, c'est très peu, selon Elisabeth Bouvet, infectiologue à l'hôpital Bichat.
Sur un territoire comme la France, où il y a 60 millions et quelques d'habitants, ça paraît pas énorme. On devrait voir diminuer ce nombre de nouveaux foyers.
Et autre signe fort, le gouvernement anticipait 700 000 tests chaque semaine. On en réalise aujourd'hui deux fois moins, car il n'y a tout simplement pas assez de Français qui présentent des symptômes nécessitant de se faire tester.
Mathieu Charrier.
Et à propos des foyers de contamination, un nouveau a été décelé en banlieue parisienne, à Villeneuve-le-Roi. 9 ouvriers d'un chantier de désamiantage d'un lycée ont été testé positif.
À l'abattoir de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, c'est la fin de la campagne de dépistage. 56 salariés positifs et 13 cas contacts supplémentaires détectés dans leur entourage.
Bientôt la fin du suspense pour les habitants d'environ 5000 communes. Édouard Philippe doit dévoiler ce matin la date du second tour des municipales.
Et le 28 juin semble la plus probable. Dans les quelques 30 000 autres communes, l'heure est à l'installation des conseils municipaux. À partir de demain et jusqu'à jeudi, les équipes élues au premier tour vont officiellement désigner leur maire dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Claudia Bertram.
Tout est prêt, hein, même la salle est déjà installée.
Après deux mois d'attente, Fanny Lacroix est impatiente de prendre ses fonctions demain à Châtel-en-Trièves en Isère.
Ça ne sera pas dans la salle habituelle du conseil municipal parce qu'en fait elle est trop petite pour pouvoir appliquer les gestes barrières. On va se réunir dans une salle des fêtes pour pouvoir rassembler 15 conseillers municipaux en respectant les 4 mètres carrés nécessaires.
Une grande salle des fêtes, c'est aussi l'option choisie par Carl Olive à Poissy dans les Yvelines. Car il faut réunir 39 personnes avec évidemment masque, gel hydroalcoolique et chacun son boîtier électronique pour voter.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de contact sur le transport des urnes, sur le fait de mettre des petits bulletins dans des enveloppes, derrière de dépouillement, et nous avons le résultat en direct.
Un conseil municipal à huis clos comme dans de nombreuses communes, mais pas au Portel, dans le Pas-de-Calais, où Olivier Barbarin a investi la salle de basket où joue l'équipe locale pour avoir du public.
On pourra accueillir environ une centaine de personnes. Bien sûr, il y aura des masques à disposition, du gel hydroalcoolique. 100 personnes dans une salle de 4000 personnes, donc chacun aura ses aises.
Qu'il soit ouvert à un public restreint ou à huis clos, la grande majorité des conseils municipaux seront retransmis en direct sur les réseaux sociaux.
Et ils ont repris le travail entre hier soir et tôt ce matin. Les salariés de Renault à Sandouville, près du Havre, sont de retour sur le site presque 15 jours après la fermeture.
Oui, une fermeture sur décision de justice à la demande de la CGT. Il n'y a pas de plan social prévu pour cette usine. En revanche, la menace plane sur d'autres sites. Comme le dit Bruno Le Maire ce matin dans le Figaro, Renault joue sa survie. Carole Ferry.
Renault dévoilera vendredi prochain, le 29 mai, son plan de restructuration en France, mais aussi à l'étranger. Actuellement, les usines sont dimensionnées pour fabriquer 5 millions de véhicules par an. C'était l'objectif mondial fixé par Carlos Ghosn pour 2022. Or, l'an dernier, le groupe n'a vendu que 3 millions de véhicules. S'ajoute cette année la crise du coronavirus. Il s'agit donc de réajuster l'outil de production. Alors la question, bien sûr, est de savoir si des usines pourraient fermer en France, alors que l'État s'apprête à garantir un prêt de 5 milliards d'euros. Nous serons intransigeants à la préservation des sites en France, a prévenu le Premier ministre. De sources proches du dossier, l'injonction est prise très au sérieux. Des discussions sont en cours entre Renault et le gouvernement. L'usine de Flins, par exemple, qui fabrique la voiture électrique Zoé, ne serait finalement plus menacée. Point d'interrogation en revanche pour Dieppe. C'est là qu'est fabriquée l'Alpine qui va devenir électrique. Est-ce que le groupe transforme les chaînes de production normandes ou délocalise à Flins? Cela fait partie des discussions sur la table avec l'avenir des sites de Lorient et de Choisy-le-Roi.
Et pour évoquer notamment la situation de Renault, Francis Bartholomé à 7h40 du CNPA et surtout Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui sera l'invité d'Europe 1 ce matin, d'abord au micro de Sonia Mabrouk à 8h15, puis avec vous, face à vos questions au 3921 ou sur le Twitter Radio Ouverte avec le hashtag Radio Ouverte.
Le gouvernement met d'ailleurs la dernière main au plan de soutien à l'automobile qui sera annoncé en début de semaine prochaine. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré, un plan qui ne concernera pas seulement les voitures électriques.
Oui, alors vous connaissez le contexte, hein, les ventes se sont écroulées de près de 90% pendant le confinement et les constructeurs ont accumulé des stocks gigantesques. 400 000 voitures encombrent les garages des concessionnaires, on ne sait plus où les mettre. Des stocks qu'il faut absolument écouler, sinon la remise en route des usines cruciales pour l'emploi ne va faire qu'aggraver le problème, d'où donc des mesures d'aide qui doivent entrer en vigueur dès le début du mois de juin. Si vous voulez acheter une voiture, c'est le moment.
Alors, vers quel modèle faut-il aller?
Alors, électrique, mais pas seulement. Les arbitrages seront rendus ce week-end, mais de très bonne source. On nous indique d'abord que sur l'électrique, le bonus pourrait passer de 6 000 à 8 000 euros, mais les aides s'appliqueront également aux hybrides rechargeables, pas seulement les modèles 100% électriques. Les flottes d'entreprises, très gros marché également, seront elles aussi aidées. Et puis enfin, et c'est un point crucial pour la filière, les derniers modèles thermiques devraient aussi bénéficier d'aides. En échange, les constructeurs s'engageraient sur la localisation de certaines activités en France. Ce plan d'aide, c'est aussi un plan de soutien à l'emploi. Les constructeurs et leurs sous-traitants emploient 400 000 personnes et les distributeurs 200 000. Ça fait du monde.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Europe 1, il est 7h08.
Les enfants trépignent, les grands aussi. Après 2 mois de confinement, on a enfin une date pour la réouverture des parcs de loisirs. Ce sera le 2 juin pour les départements en zone verte.
Et c'est le président du parc du Puy du Fou en Vendée qui a court-circuité les autorités en annonçant la nouvelle. Nicolas Devilliers, enthousiaste à l'idée d'accueillir les visiteurs à partir du 11, le temps d'organiser la reprise.
C'est le soulagement et c'est surtout l'enthousiasme général parce que nous sommes très heureux de pouvoir rejoindre ce grand mouvement d'ouverture des plages, des parcs zoologiques, des hauts lieux comme le Mont-Saint-Michel qui sont déjà ouverts. Et le chef de l'État a entendu notre appel puisqu'il a jugé que nous étions capables et suffisamment professionnels pour accueillir le public dans des conditions de sérénité optimales. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le secrétaire d'État au tourisme a confirmé que le Puy du Fou, comme les autres sites de loisirs, a bien pour objectif d'ouvrir le 2 juin prochain. Nous ouvrirons, nous, plutôt le 11 juin pour des raisons qui sont liées à notre préparation.
Le président du parc du Puy du Fou avec Marion Gauthier. Du fric pour l'hôpital public. C'était le cri de ralliement des quelques centaines de manifestants rassemblés hier devant l'hôpital parisien Robert Debré, des soignants qui réclamaient de meilleurs salaires et des réouvertures de lits. D'ici la mi-juillet, un nouveau plan pour l'hôpital public doit être présenté à l'issue du Ségur de la Santé.
Grande consultation qui s'ouvre lundi matin, Michaël Darmon, sous la houlette de l'ancienne responsable de la CFDT. Tiens, voici Nicole Nota.
Et oui, c'est même la seule femme à ce jour qui a dirigé un syndicat en France. C'est donc effectivement l'ancienne patronne de la CFDT. Elle était à la tête de la centrale lors des grandes grèves de 1995 contre la réforme de la protection sociale. Alain Juppé était à Matignon et elle, Nicole Notat, avait soutenu sa réforme. Donc, on le comprend, Nicole Notat, c'est tout un symbole. En 2017, elle s'est rangée du côté d'Emmanuel Macron et depuis était en réserve de la Macronie. Pour le chef de l'État, le moment est venu de jouer la carte sociale et de sortir le joker Notat. Donc Emmanuel Macron lui confie une tâche extrêmement délicate, celle de piloter le plan hôpital. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'idée est venue de l'aile gauche de La République En Marche, de ceux-là même qui ont fait scission il y a quelques jours et qui ont monté le groupe Écologie et Démocratie et Solidarité. Un geste politique d'Emmanuel Macron qui, avec la discrète Nicole Notat, envoie un nouveau signal à ceux qui lui reprochent d'être trop à droite.
Votre fait politique, Mickaël Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1.
Europe 1. 7h10, va-t-on manquer d'eau? 53 départements à risque de sécheresse pour cet été, notamment l'Est de la France et l'Auvergne. On en parle dans un instant, restez avec nous.
Europe 1, il est 7h12, la suite du journal. Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve.
C'est déjà la grande question alors que le thermomètre s'affole ces derniers jours. L'été qui arrive sera-t-il sous le signe d'une sécheresse exceptionnelle comme l'an dernier?
L'Est et le Massif central sont en alerte rouge et au total, plus de la moitié des départements pourraient manquer d'eau à des degrés plus ou moins importants. C'est ce que montre la carte de prévision mise au point pour la première fois par le ministère de la Transition écologique.
Bonjour Emma Aziza.
Bonjour.
Merci d'être l'invité d'Europe 1 ce matin. Cette carte dévoilée sur Europe 1 hier matin par Emmanuel Wargon. Vous êtes hydrologue, présidente de Mayanne, un centre de recherche sur l'adaptation face au changement climatique. Et c'est donc la première fois qu'une carte prévoit la sécheresse avec 3 mois d'avance. C'est, j'imagine, important pour vous.
C'est essentiel parce que être dans l'anticipation, c'est pouvoir nous permettre d'arriver sur une saison à risque avec le maximum, de décisions qui auront pu être prises sur le territoire et qui auront eu un impact pour justement ne pas arriver dans une situation qui n'est plus maîtrisable et plus gérable. Donc effectivement, ces 3 mois sont essentiels. C'est quelque chose d'entièrement nouveau. On était habitué à des anticipations météorologiques, par exemple sur le risque d'inondation, en variable entre 6 heures et 12 heures. Là, on est sur 3 mois pour nous permettre justement de nous préparer.
Alors vous parlez d'anticiper des décisions. Quel type de décisions peuvent être prises pour éviter un été catastrophique comme l'an dernier?
Alors une des premières décisions qui peut être prise, c'est vraiment la restriction en eau potable pour des usages prioritaires. On voit très bien aujourd'hui que le site qui a été mis en ligne par le ministère de la Transition écologique Propluvia, qui nous explique justement, qui met en évidence par département les arrêtés de restriction d'eau, est quasiment blanc aujourd'hui, donc on n'a aucune restriction d'eau. On sait aussi que cette carte présentait l'année dernière près de 88 départements qui étaient situés en niveau rouge, c'est-à-dire qu'on était vraiment passé en gestion de crise avec un arrêt de tous les prélèvements non prioritaires. Donc pour ne pas arriver dans cette situation, justement, l'idée c'est de travailler avec les acteurs de terrain et au fur et à mesure de mettre en place des solutions qui paraissent évidentes, en sachant que cette carte qui nous est présentée par le ministère a 2 niveaux de lecture. Le premier, c'est effectivement le fait d'avoir un niveau de risque possible, probable ou très probable de sécheresse cet été. Mais le deuxième niveau, c'est le fait qu'on nous précise si le risque de sécheresse va se faire sur les rivières, au niveau des débits des cours d'eau. Est-ce qu'on aura des cours d'eau à sec et avec un impact socio-économique majeur localement? Est-ce qu'il s'agit de problématiques sur les eaux souterraines ou bien si vraiment on a des sécheresses des sols qui vont avoir un impact sur le plan agricole?
Et nous suivrons ça attentivement. Merci Emma Aziza, hydrologue. Merci d'avoir été en direct dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et quand il fait très chaud, on n'a qu'une envie, aller se baigner à la mer. Ceux qui ont la chance d'habiter près des côtes sont évidemment au rendez-vous en ce week-end prolongé, comme à la Ciotat, près de Marseille. On se balade, on se baigne, mais pas le droit de lézarder sur le sable. Enfin, ça c'est pour la théorie. En pratique, c'est un petit peu différent, comme l'a constaté Stéphane Frangy.
C'est une plage relativement dynamique, avec une tolérance pour les parents comme Yannick qui attendent leurs enfants partis se baigner.
Apparemment ils ne disent rien. Tous ceux qui sont assis là, il y en a beaucoup. Moi je suis posé, je ne suis pas censé normalement. C'est toléré quand même. Pour contrôler tout le monde, compliqué là.
Interdiction tout de même de s'allonger, mais pour bronzer, beaucoup ont trouvé la parade et posé leurs serviettes sur la promenade qui longe la plage comme Sonia. Et Sonia?
Il y a la police à 50 mètres, on ne dérange personne. On n'a même pas de distance de sécurité, c'est-à-dire on est assis les uns à côté des autres à 5 cm. voyez, hein. Et on a le sable en face de nous à 10 mètres et on n'a pas le droit.
Le problème n'est finalement déplacé que de quelques mètres. Ces deux Marseillaises venues passer l'après-midi avec leurs enfants ne comprennent pas du tout cette réglementation.
Mais regarde là, sur la plage, là il y a des personnes, elles sont allongées. Là. Quand la police elle arrive, leur dire vous quittez la plage alors qu'il n'y a personne autour d'eux et que nous ici, regardez comment on est.
Et la situation interpelle le maire de la ville qui réfléchit à un ajustement dans la crainte que la préfecture puisse décider d'interdire à nouveau l'accès aux plages. La Ciotat, Stéphane Frangy, Europe 1.
On irait bien à la plage, nous aussi. Hein.
Eh ben allez, on vous laisse. Hein. Allez-y, courez, courez à
on
la Ciotat.
On va rêver.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani.
Europe 1, il est 7h16. Toutes vos questions santé sur le hashtag Radio Ouverte et avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Question pour vous, une nouvelle étude encourageante sur l'effet de la vaccination sur les macaques sur le court et sur le long terme. Est-ce que c'est prometteur pour l'homme ?
Alors c'est vrai que l'épidémie de Covid a entraîné une course contre la montre à l'échelle mondiale afin d'obtenir un vaccin. La question qu'on peut aussi se poser, c'est de savoir si la vaccination entraîne une bonne réponse immunitaire, car ce n'est malheureusement pas toujours le cas. À l'heure actuelle, plusieurs vaccins sont en cours de développement et sont à des stades d'essais cliniques et d'autres sont à un stade d'essais précliniques. Dans une étude récente, des chercheurs américains ont testé sur des macaques des candidats à un vaccin qui exprime différentes protéines du coronavirus. Et la bonne nouvelle, c'est que celle-ci confère une double immunité, une immunité humorale et cellulaire qui permet de créer à la fois des anticorps mais aussi des lymphocytes mémoire pour une protection de plus longue durée. En revanche, il faut être très prudent. Si le virus continue de circuler pendant longtemps et à haute intensité, il est possible que celui-ci mute, rendant une vaccination beaucoup plus compliquée. La prudence est toujours de mise.
Merci Jimmy, on vous retrouve tout à l'heure à 15h avec Mélanie Gomez.
La matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et on retrouve Anissé Mbida, l'innovation du jour.
Bonjour Anissé.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Du nouveau dans la mobilité douce, comme on l'appelle, dès lundi à Paris, on devrait voir apparaître les premières trottinettes en libre service avec, s'il vous plaît, des casques intégrés.
Oui, ça sera sur les trottinettes de l'opérateur tiers. Elles auront un petit boîtier sous le guidon avec un casque replié à l'intérieur, un casque homologué bien sûr. Alors ça sera gratuit et on pourra le déverrouiller avec l'application qui est sur son téléphone portable. En fait, ça fait un moment qu'on essaie de pousser les utilisateurs de trottinettes à porter un casque. Il y a même des opérateurs qui offraient des courses gratuites à ceux qui se photographiaient avec, sauf qu'il fallait déjà en avoir un. Or, un casque, c'est gros, ça oui, prend de la place, on ne sait jamais trop quoi en faire à la fin du trajet. Donc la solution, c'est peut-être d'en mettre un à disposition sur chaque trottinette.
Alors, la question, c'est s'il y a un casque, il faudrait qu'il y ait des charlottes pour contrer les poux et les microbes.
Oui, il y en aura, mais pas beaucoup, 5 seulement. Alors, ils assurent qu'ils vont les changer toutes les 5 locations, parce qu'en moyenne, ouais, leurs trottinettes sont rechargées toutes les 5 rotations. Donc, ouais, à voir.
Laissez-moi dubitatif.
Peut-être qu'il faudra se promener avec sa propre charlotte pour être sûr d'en avoir une propre. En tout cas, une centaine de trottinettes avec casque seront déployées dès lundi à Paris et plusieurs centaines d'autres suivront au courant de l'été.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas aussi ça sur les vélos en libre-service?
Figurez-vous que ça existe. Alors, pas en France, mais en Suède et aux États-Unis, chez l'opérateur Wheels. On a le casque qui est accroché sur le porte-bagages à l'arrière. Parce que vous avez raison, on a le même problème avec les vélos. Même si on possède son propre casque, il faut penser à toujours l'avoir avec soi au cas où on prendrait un vélo ou une trottinette en libre-service. Donc c'est peut-être une bonne chose qu'on commence à les intégrer.
Merci Monsieur Mbida tous les matins sur Europe 1.
Europe 1. Et à suivre sur Europe 1, l'édito sport, il sera question des JO et le CIO qui évoque une éventuelle annulation des Jeux de Tokyo. Pourquoi vouloir faire peur, se demande Virginie Fulpin.
Et Axel de Tarlé pour Le Monde Bouge. Le coût de la vie va-t-il flamber dans les semaines et dans les mois à venir? À tout de suite.
Il est 7h21, la matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve.
Et le monde bouge tous les matins sur Europe 1 avec Axel de Tarlé. Bonjour Axel.
Bonjour Pierre.
Le coût de la vie va-t-il flamber dans les semaines à venir? En tout cas, les tout premiers indicateurs d'inflation sur le mois d'avril ne sont pas du tout rassurants.
Oui, alors pourtant, à première vue, tout va bien. Inflation en France pour le mois d'avril, plus 0,4% sur un an, chiffre INSEE. Sauf que si on regarde derrière cette apparente stabilité, eh bien ça bouillonne avec des écarts de prix considérables. Alors d'abord, tout ce qui est énergie, par exemple carburant, essence, diesel, là les prix ont chuté, moins 8,5% en avril et même moins 10% au niveau européen. En revanche, produits frais, plus 18%. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'effet Garriguette. Vous savez, on l'a tous constaté dans les supermarchés, comme il n'y avait plus de fraises espagnoles à bas prix, eh bien on a dû acheter de la fraise française.
On doit rien.
Oui, enfin, on a acheté de la fraise française. En tous les cas, il y avait...
Vous avez des envies de femme enceinte, mon
cher
Axel. Non,
mais je veux dire, dans les rayons, il n'y avait plus que de la fraise française.
Oui, j'ai compris.
Qui, certes, était très bonne, mais était très chère. Alors ça, c'est pas vu dans l'indice général des prix, parce qu'on l'a dit, la baisse des prix du carburant, à compenser la hausse des prix des produits frais.
Mais ça pourrait ne pas durer. Il faut donc craindre une hausse généralisée des prix, Axel ?
Bah oui, malheureusement. Alors ça y est, vous savez que pour le prix des carburants, eh bien ça commence à remonter. Vous avez vu qu'en Chine, la consommation de pétrole est même supérieure à ce qu'elle était il y a un an à la même époque. D'ailleurs, les cours du brut sont remontés à 32 $. Donc oui, les bonnes nouvelles du côté de l'essence, c'est terminé. En revanche, dans la vie de tous les jours, en plus de l'effet Garriguette dont on vient de parler, nous allons maintenant subir l'effet lingette. C'est quoi ? Bah, c'est-à-dire que toutes ces mesures sanitaires, vous savez, nettoyer les postes de travail, limiter le nombre de clients dans un magasin, dans un restaurant, toutes ces mesures font gonfler les coûts de 10 à 20% selon les calculs du MEDEF. Et bah, donc forcément, ça va se retrouver dans la note finale du consommateur. Donc oui, malheureusement, il faut redouter des hausses de prix. Alors la question maintenant, c'est de savoir si le consommateur aura les moyens. C'est d'ailleurs là la question clé, car vous savez, quand l'offre ne rencontre pas la demande, comme on dit, hein, parce que l'offre est trop chère et que les ménages se sont appauvris, eh bien ça s'appelle la crise, avec à la clé de nombreuses faillites. Et c'est malheureusement ce scénario qui est devant nous.
Et en attendant, les Français continuent d'épargner sur le livret A, vous nous en parliez il y a encore quelques jours. Donc, c'est pas gagné, comme on dit. Merci Axel de Tarlé.
Il est 7h23 sur Europe 1. Virginie Fulpin, l'édito sport.
Bonjour Virginie.
Bonjour Pierre.
Alors elle est très remontée, hein, Virginie, ce matin, puisqu'entre le président du CIO qui parle d'une éventuelle annulation pure et simple des JO de Tokyo et Mediapart qui laisse planer l'idée d'une faillite du football français, la journée d'hier a été mouvementée et pour vous, Virginie, il faut arrêter d'agiter des peurs sans fondement.
Mais vous ne pensez pas qu'on souffre assez comme ça en ce moment ? Pourquoi chercher à grossir le trait et faire comme si l'apocalypse sportive nous attendait au coin de la rue ? Que la crise sanitaire ébranle le monde du sport, ça ne fait aucun doute. Il y a beaucoup de questions à se poser, beaucoup d'ajustements à trouver et on doit mener une vraie réflexion de fond sur les événements sportifs. Mais là, la déclaration de Thomas Barr me semble anxiogène sans raison. Je vous laisse juger. Si les Jeux Olympiques de Tokyo ne peuvent pas avoir lieu à l'été 2021, ils n'auront pas lieu du tout. Que le président du Comité international olympique réfléchisse à cette éventualité, c'est tout à fait normal. Mais tout patron du CIO qu'il soit, il n'a absolument aucune idée aujourd'hui de ce que sera la situation sanitaire dans un an et deux mois. Donc à quoi ça sert d'agiter le chiffon rouge en place publique ? Les athlètes olympiques sont déjà en train de digérer le fait que les Jeux soient reportés, ce qui est parfaitement logique. On va peut-être les laisser reprendre progressivement l'entraînement sans leur répéter qu'ils travaillent peut-être pour rien. Et tout ça, sans aucune information nouvelle. Hein. Pour des sportifs en fin de carrière, ça revient à peu près à leur dire que c'est fini pour eux. Je trouve ça pour le moins maladroit.
Et Mediapart de son côté a publié hier une enquête sur la faillite retentissante du foot français.
Ben là encore, rien que le titre est anxiogène. On a l'impression qu'on va assister à la mort du foot français. Mediapart s'est procuré un rapport confidentiel de la Ligue sur les conséquences économiques de la crise sanitaire. Le coût est chiffré à 438 millions d'euros. Oui, c'est beaucoup. Ce qui inquiète Mediapart, c'est que la Ligue a demandé un prêt garanti par l'État, mais que vu les déficits de certains clubs, ce sont les contribuables qui risquent de payer. Ben non, il y a des clubs qui sont en déficit plusieurs années de suite. Oui, c'est le cas de l'OM, par exemple, mais ça ne se cumule pas. Hein. Il y a un actionnaire qui renfloue chaque année. Et puis si vraiment on a envie d'imaginer le pire, les clubs ont des actifs, comme les joueurs, par exemple, qu'ils peuvent toujours vendre. Donc encore une fois, pourquoi faire peur à tout le monde ? Ouh, c'est vous qui allez payer pour les clubs de foot. Non, on n'a franchement pas besoin d'entendre les sirènes hurler parce que certains choisissent de grossir le trait. On n'en est pas à la faillite globale du foot français et on ne sait pas si les Jeux de Tokyo auront lieu l'an prochain. C'est dur, parfois, d'admettre qu'on ne sait pas, mais ça me semble un peu plus raisonnable que de jouer sur les peurs.
L'édito tous les matins de Virginie Fulpin. Restez avec nous dans un instant, la météo.
7h27, Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Oui, et dans la prochaine demi-heure, nous accueillerons Francis Bartholomé. Il est le président du CNPA, le Conseil National des Professions de l'Automobile. Il nous parlera du secteur de l'automobile qui est en crise avec ses voitures. Nicolas Barré nous le disait encore dans le journal de 7h, c'est 400 000 voitures qui attendent sur des parkings avant d'être vendues alors qu'on est en pleine crise économique. Et après cette séquence avec Francis Bartholomé, eh bien c'est Bruno Le Maire à 8h15 qui reviendra également sur ce sujet avec le plan de relance sur l'auto et également avec le dossier de Renault. Et puis, dans le périscope de Jean-Philippe Ballas, cette voix. La voix inimitable de la chanteuse de jazz Didi Bridgewater qui nous reçoit chez elle aux États-Unis. À la Nouvelle-Orléans, ça sera dans le périscope de Jean-Philippe Ballas à 7h50. Mais d'abord, une autre chanson. celle de la météo et de Monsieur Cabrol. S'il est là.
Je suis en train de tout petit peu de pluie, parce qu'il y en a un petit peu. Et c'est vrai que, alors, elles sont pas très fortes, on peut parler de bruine ou de pluie. Elles se situent actuellement entre, disons, Le Mans, Rouen. Et elle glisse vers la Champagne, non, vers les Ardennes essentiellement. Et elle contourne Paris. C'est vraiment, il suffit de peu de choses pour qu'un petit dérapage contrôlé et hop, elle va sur Paris. Mais non, c'est pas du tout le cas. Elle va rester là. Je pense qu'elle contournera Paris et nous aurons ce petit passage pluvieux qui rentre dans un champ de pression élevé. Si vous avez un baromètre, vous tapotez et vous voyez que il reste quand même assez élevé. Pas. Il reste assez élevé de baromètre quand vous le tapotez. Tapotez pas trop fort. Et alors, donc, une fois que les pressions vont remonter, c'est-à-dire demain, et le baromètre sera à la hausse, eh bien, ces pluies vont disparaître. D'ailleurs, cet après-midi, déjà, on peut dire que sur l'ensemble des côtes de la Manche et la mer du Nord, nous aurons un ciel le plus souvent éclairci. Et éclairci également un peu plus bas, c'est-à-dire vers la région parisienne, la Champagne, la Lorraine et les Vols de Loire. Il sera ce ciel très mitigé, mais enfin, il ne pleuvra pas. Et sur les régions du Sud, ce sera un voile. Alors oui, c'est vraiment une nuance. C'est un voile, mais ce voile donnera une impression de temps lourd. Bref, c'est pas une mauvaise journée. C'est pas une mauvaise journée en dépit de ce que je viens de vous dire. Et surtout grâce aux températures, entre 22 et 31 degrés, s'il vous plaît. Hein. Et ce matin, je vous rappelais le coup de cœur que nous avons eu pour Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, qui étaient les villes les plus chaudes de France, avec 21 et 22 degrés à 5h du matin. 21 à 22 degrés. Et on dira après que Boulogne-sur-Mer est une ville froide. Voilà. Donc c'est vraiment la particularité de cette journée. C'est pas encore trop méchant. Demain, ce le sera beaucoup plus.
Merci Laurent Cabrol. Et bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
7h30, un nouveau journal sur Europe 1.
C'est la locomotive économique de toute une région. Un euro dépensé au Puy du Fou, ce sont des retombées à peu près de 3,20 euros sur la région des Pays de la Loire.
Le moteur de toute une économie locale sur le point de repartir, le Puy du Fou, parc ATM vendéen, annonce sa réouverture le 11 juin. Pour les autres parcs du même type, ce pourrait être le 2 juin dans les zones vertes. Ils espèrent être prêts pour les vacances d'été. Édouard Philippe doit annoncer aujourd'hui la date du second tour du scrutin municipal le 28 juin. Tiens la corde. Et puis un commerçant peut-il refuser votre paiement en espèces de peur d'être contaminé par des pièces ou un billet? Eh bien non, nos explications dans ce journal. Votre invité dans moins de 10 minutes, Pierre.
Francis Bartholomé, président du CNPA. Quel plan de relance pour le secteur automobile?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Peut-être un coin bleu dans les cieux de nos vacances d'été. Plusieurs sites touristiques ainsi que des parcs à thème pourraient rouvrir à partir du 2 juin dans les zones vertes. Et si l'épidémie ne reprend pas de vigueur, le gouvernement doit confirmer la date la semaine prochaine.
Parmi les sites concernés, le Puy du Fou en Vendée, 2 300 000 visiteurs l'année dernière. La direction du parc annonce une réouverture le 11 juin, le temps de tout préparer.
Un soulagement pour un grand nombre d'élus et de professionnels des environs, tant le site est un moteur de l'économie locale. Charles Guyard.
C'est une belle victoire, c'est un ouf de soulagement.
La réouverture du Puy du Fou, Véronique Besse peut d'autant plus la savourer qu'elle avait lancé une pétition dès le 9 mai pour la réclamer. Pétition qui, en quelques semaines, avait recueilli pas moins de 24 000 signatures. Il faut dire que pour la mer des Herbiers, commune située à 8 km, le parc représente un atout considérable.
C'est la locomotive économique de toute une région. Un euro dépensé au Puy du Fou, ce sont des retombées à peu près de 3,20 euros sur la région des Pays de la Loire. Il y avait vraiment des gens en difficulté, notamment des hébergeurs qui toute l'année mise sur l'ouverture du Puy du Fou pour accueillir les touristes et qui là n'avaient aucune réservation, donc ça devenait économiquement problématique.
Illustration à la maison Marie Barraud. Cet hôtel situé également aux Herbiers dépend directement de l'activité du Puy du Fou, surtout en cette saison. En résumé, si le parc est vide, l'établissement le reste aussi.
Je suis en train de traiter les annulations jusqu'au 5 juin.
Gérard Soulard, patron de l'hôtel.
Parce qu'en cette période de l'année, 90% de notre clientèle, c'est une clientèle du Puy du Fou. Donc quand le Puy du Fou est fermé, on est quasi
Avec la réouverture du parc le 11 juin, c'est donc toute une économie qui va reprendre progressivement. Le Puy du Fou, cela représente 7000 emplois directs et indirects dans le secteur. Les Herbiers, Charles Guyard, Europe 1.
Bruno Le Maire, invité d'Europe 1 ce matin, rendez-vous 8h15. C'est l'interview de Sonia Mabrouk. Et vos questions, bien sûr, à Bruno Le Maire, 3921 dans la foulée ou sur le hashtag Radio Ouverte.
Il sera notamment question de Renault avec le ministre de l'économie et du plan de soutien du gouvernement annoncé en début de semaine prochaine, de l'aide notamment pour les voitures électriques et hybrides rechargeables, nous disait Nicolas Barré dans le journal. général de 7h.
Et on en reparle dans 10 minutes avec Francis Bartholomé. Le gouvernement va trancher aujourd'hui, en tout cas sur la date du second tour pour le scrutin municipal qui n'a pas pu se tenir en mars. Le Premier ministre Édouard Philippe doit s'exprimer ce matin.
Sans doute le 28 juin. Le Conseil scientifique devra toutefois confirmer la date 15 jours avant l'échéance. Précision dès le début du journal de 8h.
Allez, cette question à présent. Un commerçant peut-il refuser votre paiement en espèces par peur d'être contaminé par vos pièces, par vos billets? Eh bien non, c'est illégal.
La répression des fraudes est saisie et elle prend le sujet très au sérieux, Clément Le Saffrin.
En la matière, il y a une règle absolue. Les espèces sont le seul type de paiement que les commerçants sont obligés d'accepter. En cas de refus, c'est 150 euros d'amende, coronavirus ou pas. Sauf que certains petits commerçants comme grandes enseignes ne jouent pas le jeu en acceptant que la carte bancaire pour des raisons soi-disant sanitaires. Et c'est ce que dénonce François Daoust, délégué général de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire, qui vient de saisir la répression des fraudes.
Les études qui ont été faites montrent que les billets de banque, eh bien, sont moins porteurs que justement une carte bancaire que l'on met dans un terminal de paiement. À partir du moment où le caissier ou la caissière scanne ce que vous avez posé sur le tapis roulant, on se focalise sur un faux problème.
Alors nous avons contacté des entreprises accusées de refuser des paiements en espèces. Castorama et Bricomarché, par exemple, plaident une erreur de communication et assurent que tous les types de paiements sont acceptés. En revanche, la chaîne de fast-food Burger King assume, si le respect de la sécurité de nos équipiers et nos clients l'exige, nous pouvons être amenés à refuser le paiement en espèces. Et ce, alors même que le défenseur des droits rappelle aux commerçants que refuser les espèces est illégal, mais aussi discriminatoire envers les populations les plus vulnérables, qui n'ont parfois pas d'autres moyens de paiement.
Sur le front de l'épidémie, toujours la décrue du nombre de patients à l'hôpital en réanimation. 1745 malades désormais et près de 64 000 personnes guéries.
28 215 décès, 83 de plus ces dernières 24 heures. Et cette première, aucun nouveau décès enregistré en Nouvelle-Aquitaine, l'une des régions toutefois les moins touchées.
Nous parlions en début de journal de la possible réouverture des parcs à thème le 2 juin en zone verte, donc pour les vacances d'été. Mais qu'en sera-t-il d'un éventuel voyage chez nos voisins européens?
Le gouvernement nous encourage à rester en France, mais plusieurs pays, souvent prisés, ont l'intention de rouvrir leurs frontières. C'est le cas de la Grèce. Accueil de touristes européens dès le 15 juin, Élise Dangean.
Alors attention, pas question pour la Grèce de faire entrer tout le monde. Seule une vingtaine de pays pourront envoyer leurs ressortissants sur le sol grec, notamment les moins impactés par l'épidémie. Le ministre du Tourisme a déjà cité l'Allemagne et les Balkans. Mais qu'en est-il de la France? Eh bien, selon nos informations, elle pourrait elle aussi faire partie du club pour une raison assez simple. C'est l'un des pays qui envoie le plus de touristes en Grèce. Le verdict devrait tomber d'ici la fin du mois de mai. Et si la France fait partie des heureux élus, les compagnies aériennes l'assurent, elles seront prêtes. Le Paris-Athènes d'Air France va par exemple monter en puissance tout au long du mois de juin. Reste à savoir si les Français auront le droit de partir hors des murs, une question qui n'est toujours pas tranchée par le gouvernement.
Le virus frappe fort l'Amérique du Sud, bilan quotidien record de décès au Brésil, plus de 1100 morts pour plus de 20 000 décès désormais.
Les États-Unis, pays le plus mortellement touché, plus de 94 500 décès désormais. Les drapeaux des édifices fédéraux seront en berne partout dans le pays d'aujourd'hui à dimanche, annonce cette nuit de Donald Trump pour honorer les victimes. L'histoire, pour finir ce journal, d'un petit morceau de papier fragile, longueur, largeur, quelques centimètres, poids 17 millions d'euros. C'est le reçu d'une grille gagnante de l'euro-million. Le grand gagnant l'a validé le 20 mars, soit en plein confinement. Et dès lors, impossible pour lui de sortir pour échanger son ticket contre l'énorme chèque. C'est ainsi que pendant 50 longs jours, il a dû le protéger d'un coup de vent qu'il aurait emporté, du chien qu'il aurait boulotté, ou le pire. Graal. Et s'il l'avait égaré? Mais il a réussi. Alors comment a-t-il fait? Isabelle Césari, responsable des relations grand gagnant à la Française des Jeux, vient de lui remettre le magot.
Ne l'a pas quitté puisqu'il était dans la coque de son smartphone, qu'il avait jour et nuit avec lui puisqu'il était sur lui, avec lui pendant la journée et puis sur sa table de chevet la nuit. Le reçu de jeu, il l'avait plié en deux. Il était lui-même donc dans un petit papier blanc. Pour lui, c'était donc une cachette tout à fait sûre. Il a attendu donc le jour du paiement avec beaucoup de philosophie, mêlé d'un peu d'impatience, sans aucun doute, mais très serein. Ce qu'il m'a dit quand il m'a donné le ticket, elle m'a dit « je suis aux anges, je suis ravie ». Et je lisais tout ça dans ses yeux et c'était vraiment très émouvant.
Isabelle Césari, responsable des relations grand gagnant à la Française des Jeux, jointe par Roman Hockey.
Bah heureusement qu'on ne lui a pas piqué son portable.
Voilà, c'est ce qu'on se dit. Ouais.
Merci, c'était le journal de... C'est complètement hallucinant cette histoire. Le journal de Jérôme Lacroix. Europe 1.
La matinale d'Europe 1 avec vous, Pierre de Villeneuve, et votre invité dans un instant.
Oui, le plan de relance automobile, qu'est-ce qu'on doit en penser? Bruno Le Maire, bien sûr, nous en parlera tout à l'heure à 8h15, mais d'abord c'est Francis Bartholomé qui ouvre le bal. Dans quelques instants, il nous expliquera, lui, le président du Conseil national des professions automobiles, comment est-ce qu'il voit les choses.
À 7h39 sur Europe 1, les acteurs de l'actualité en direct. Votre invité ce matin, Pierre de Villeneuve, c'est Francis Bartholomé, président du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile.
Bonjour Francis Bartholomé.
Bonjour Pierre de Villeneuve.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 avec le CNPA. Vous représentez 500 métiers, les distributeurs, les concessionnaires, les agents, les réparateurs, tout le métier de service, les auto-écoles, les acteurs de la mobilité avec le MoveLab. La voiture, l'automobile qui va mal, on le sait, avec Renault, des sites menacés. Le gouvernement y travaille, n'a pas encore signé le prêt de 5 milliards d'euros conditionné à la relocalisation. Est-ce qu'il faut qu'il le fasse ?
Oui. La filière automobile, elle a deux composantes. Une composante industrie, une composante service. Nous, les services, on a besoin d'une industrie forte. Donc, on espère que le pacte productif qui sera celui proposé par le ministre pourra sauver l'industrie. Je n'ai pas mal prononcé sur, bien sûr, de même sur les impôts de production. Je crois qu'à un moment donné, il faut avancer.
C'est-à-dire
que l'industrie soit forte.
C'est-à-dire sur les impôts de production.
C'est-à-dire de baisser les coûts de production pour que notre pays puisse être beaucoup plus adaptable à la production industrielle. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et nous, clairement, on a besoin en fait de cette indissociabilité entre les services et l'industrie. Donc on souhaite bien sûr une industrie très forte.
Et c'est par cette baisse des impôts de production que justement les industries et les constructeurs pourront plus facilement relocaliser ?
C'est ce que j'en pense, puisque ça doit faire partie du plan d'ailleurs qui sera annoncé par le ministre tout à l'heure, donc c'est dans ce sens. Mais moi, au-delà, si vous voulez, de cette difficulté de l'industrie qui est bien liée à cette crise sanitaire, on a les mêmes problèmes au niveau niveau des services. Hein. Quand on vous a publié il y a peu de jours l'enquête qui a été faite sur 2000 entreprises, et on voit bien que près de 30% de nos chefs d'entreprise sont très 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 près de penser à la faillite. Donc on a aussi d'énormes complications aujourd'hui, et faut penser que si cela malheureusement devait arriver, c'est 40 ou 50 000 emplois qui pourraient disparaître dans nos services. Donc pour nous aussi c'est absolument très grave, et nous avons besoin d'un plan de relance qui nous permette effectivement de sortir si possible par le haut de cette crise.
Ce que vous en savez pour l'instant de ce plan de relance, est-ce que c'est suffisant?
Alors, ce que l'on sait du plan de relance qui nous présentait, c'est un plan de relance qui serait fait basé sur une prime à la conversion déjà. Hein. Donc, on sait très bien que...
Donc, le retour de la fameuse prime à la conversion.
Le retour de la fameuse prime à la conversion. Et on la verrait, nous, plutôt sur sa version 1. Rappelez-vous, sur la version qui nous serait proposée aujourd'hui, c'est une version qui est très, 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 très tournée vers les produits full électriques, entièrement électriques, voire hybrides rechargeables. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, si vous voulez, ça ne s'adresse qu'à une très faible partie du marché. S'adressant à une faible partie
combien
du marché,
ça entre 0 et 5%, c'est ça?
Entre, mettons, 5% du marché.
Oui.
Alors que, en définitive, ce qu'il faut, c'est un grand coup qui avance fort, qui dynamise les choses pour une reprise forte. On pense que, globalement, qu'il faudrait y ajouter, nous, dans cette prime à la conversion, les véhicules thermiques les plus récents, au moins les Euro 6. Pourquoi? Parce que ces véhicules thermiques représentent 95% de nos parcs aujourd'hui en véhicules neufs, représentent 99% dans nos parcs de véhicules d'occasion. Donc si on veut vraiment une relance dynamique forte, il faut donner un accès rapide à ce type de produit. Et je suis convaincu qu'en plus on ne le fera pas contre éventuellement ni l'écologie ni le social, puisque la prime à la conversion a quand même deux gros avantages. Elle respecte le social, puisqu'on aide les ménages les plus défavorisés à acquérir un véhicule plus récent et plus propre, et on aide effectivement encore une fois à diminuer les émissions de CO2, donc le réchauffement climatique. Si vous aviez une voiture à 160 grammes de CO2, que vous en auriez une à 90 grammes ou à 80 grammes, vous voyez très bien qu'effectivement il y a un emballement qui va dans le bon sens. Donc on demande clairement là une ouverture sur les parcs VO, oui bien sûr, sur les parcs VO, parce que
les parcs VO, c'est les véhicules d'occasion, hein, Francis Bartholomé.
C'est sur les véhicules d'occasion, excusez-moi, oui tout à fait, mais qui sont de l'ordre de 600 000 voitures actuellement en France.
Et vous savez, 600 000 voitures qui attendent des particuliers sur les parkings dans l'attente d'être
achetés. Oui, en véhicule d'occasion, tout à fait.
Et 400 000 voitures neuves à peu près.
Et à peu près, et en totalité de voitures neuves aujourd'hui, c'est 10 milliards de voitures neuves que nous avons aussi en stock, qui sont majoritairement
10 milliards d'euros,
qui sont majoritairement effectivement des produits thermiques. Donc il faut absolument que l'on passe par cette, il faut être pragmatique si vous voulez. Hein. Clairement, on ne veut pas être taxé de revenir à l'arrière. On est persuadé qu'il faut se lutter contre le réchauffement climatique, mais là on a un réchauffement qui est encore beaucoup plus fort. C'est celui de marcher, c'est celui de bouger. Alors il y a aussi un avantage assez fort, si vous voulez, c'est que on a une très forte cohésion dans la filière auto entre l'industrie et les services, je le disais tout à l'heure. Mais là, à la fois les équipementiers, à la fois les constructeurs sont très favorables à ce qu'il y ait cette reprise par l'aval de la filière. On comprend bien que pour dégorger l'ensemble du système et permettre à une industrie de pouvoir rebondir, construire, fabriquer et vendre à nouveau par la limite de ses commerçants, il faut que cette filière se remette en marche.
Mais Francis Bartholomé, pendant le confinement, il y a eu un changement de paradigme. Il y a eu du télétravail, il y a eu moins de voitures sur les routes. Est-ce que ces données ne vont pas entraîner une réflexion? Est-ce qu'il faut repenser le modèle économique du marché auto en se disant que, bah oui, peut-être que dans 10 ans, on aura 10, 20, 25% de voitures en moins sur les routes?
Je pense que le CNPA a déjà, bien avant le Covid-19, pensé à la question. On a bien vu les évolutions qui arrivaient avec l'ubérisation. Donc on voit bien quand même, à un moment donné, le covoiturage, l'autopartage. On voit bien qu'on a changé de paradigme, comme vous le dites. Donc nous, on s'était donné comme obligation de rentrer dans ce système de réflexion. Et c'est pour ça que nous pilotons la verticale de la mobilité à Station F. Nous avons créé le MoveLab. Pourquoi? Pour réfléchir à nos futurs métiers, réfléchir aux comportements des consommateurs, puisqu'en définitive il s'agit de voir quel sera le pacte de mobilité demain qui sera nécessaire de mettre en place et de faire en sorte que nos professionnels puissent s'y adapter. C'est ce que nous voulons absolument pour notre avenir. C'est comme tous les jours, nous avons des nouveaux métiers, nous avons des métiers de la mobilité partagée qui sont avec nous et qui globalement travaillent sur ce genre de choses. Maintenant, restons quand même raisonnables. Si on fait une enquête aujourd'hui sur la voiture, 70% de nos compatriotes aujourd'hui disent avoir besoin de leur véhicule pour aller travailler. 74% disent avoir besoin de leur voiture pour se déplacer, voire aller en vacances. Donc le sujet est encore prégnant et important pour nous de cette nécessité du véhicule.
Dans 20 minutes, Bruno Le Maire sera dans ce studio, Francis Bartholomé. En 20 secondes, quel est le message que vous voulez lui dire ?
Oh, je vais dire à Monsieur le Ministre que nous avons vraiment besoin d'un plan de relance fort, dynamique, qui passe par un élargissement complet de la prime à la conversion, qui passe par le fait de nous apporter aussi un chèque réparation pour relancer la prévente et donner la possibilité à nos compatriotes de pouvoir réparer leurs voitures et les rendre plus sûres. Et puis nous voulons lui dire, Monsieur le Ministre, qu'on veut participer aussi à tous ces plans de relance actifs pour la filière automobile, que les services bénéficient largement comme l'industrie de subsides qui pourraient nous aider, nous aussi, à nous moderniser, à être beaucoup plus forts demain, à nous digitaliser et puis à répondre aux grands besoins qui vont être sur la formation professionnelle continue. On a besoin, effectivement, que les services que nous représentons soient aidés comme l'industrie.
Merci beaucoup, Francis Bartholomé, président du CNPA, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1. Depuis chez elle à la Nouvelle-Orléans, la chanteuse de jazz Didi Bridgewater dans Periscope avec Jean-Philippe Ballas sur Europe 1.
Et Nicolas Bétou à suivre sur Europe 1.
Il est 7h50, la matinelle d'Europe 1 avec Pierre Devineau.
L'heure de sortir notre périscope, la culture à 360 degrés. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et ce matin, une voix. De l'une de nos plus grandes chanteuses de jazz, Didi Bridgewater, avec la réédition de son premier album Afro Blue, sorti en 1974. Vous en avez profité, Jean-Philippe, pour prendre de ses nouvelles.
Oui, et virtuellement du moins, nous traversons l'Atlantique, direction la Nouvelle-Orléans. C'est dans sa maison américaine que Didi Bridgewater vit cette étrange période. Plus de concerts, plus de festivals, on est d'accord. Alors comme nous tous, elle passe par toutes les humeurs, n'empêche, sa voix nous fait du bien. Your lips were like a red and ruby chalice, warmer than a summer night. Bonjour Didi Bridgewater.
Bonjour.
Vous êtes une vraie chanteuse de scène et je me dis que ça devait vous manquer, mais alors vraiment.
Ah, j'ai hâte de retourner sur scène. C'est ma vie. Et c'est comme
beaucoup d'autres artistes, c'est comme les festivals, c'est un réel problème. C'est un réel problème et on ne sait plus où on est, donc ça fait des drôles de, d'émotions, quoi. La possibilité d'être avec un public, d'essayer de les rendre heureuses avec la musique, le fait de, d'être avec des musiciens avec qui je travaille et de partager cette musique qui nous plaît tous, c'est difficile parce qu'on est dans une phase inconnue. Moi, je m'assois et j'attends.
C'est quoi vos trucs à vous au quotidien pour aller bien ?
Ah ben, je me lève. Je me lève. Donc j'essaie d'aider les gens, j'essaie d'aider quelques musiciens que je connais ici dans la Nouvelle-Orléans qui n'ont pas assez d'argent. Je connais une chanteuse qui chante dans les rues et donc bien sûr pour elle c'est très difficile, donc j'essaie de penser aux autres. J'ai beaucoup de choses très positives, j'étais bénie, donc je suis très reconnaissante. Let's build a stairway
to the stars. Est-ce que vous imaginez, Didi Bridgewater, qu'il y a des gens qui écoutent votre voix chaque jour chez eux pour aller mieux ?
Non, mais ça me touche. Et si ma voix peut aider des gens pour faire avec toutes les difficultés qu'on est en train de vivre, bah, je suis fière si je peux donner de l'espoir aux autres avec ma voix, avec la musique que j'ai faite.
Merci beaucoup, Didi Bridgewater.
Bah, c'est moi.
Connu Precious Thing, Didi Bridgewater en duo avec Ray Charles. C'était Periscope. Merci pour ces bons moments, Jean-Philippe Alas.
Il est 7h54, l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
Le compte à rebours a commencé avant le début lundi de ce qu'on appelle le Ségur de l'hôpital.
Exactement. Alors avant toute chose, une précision. Un Ségur, c'est exactement comme un Grenelle.
Pardon ?
Eh ben oui, c'est un peu abscon, mais voilà. Depuis mai 68, chaque crise sociale doit déboucher sur un Grenelle, c'est-à-dire sur une sorte de grand-messe, une conférence au cours de laquelle les syndicats qui en raffolent jouent leur rôle, le patronat le sien, et où le gouvernement arbitre et décide tout à la fin. Bon, le Ségur, c'est la même chose, sauf que ça concerne l'hôpital et que ça ne se déroule pas au siège du ministère du Travail, rue de Grenelle, mais à celui de la Santé, avenue de Ségur. Nuance.
Moi, tout de même, ce sera un moment important pour la relance du plan hôpital.
Alors, bien sûr, et sur les moyens qui vont y être consacrés, on sait déjà qu'une tuyauterie complexe va se mettre en place pour transférer des déficits et donc de la dette d'un compte à un autre. Sauf que, ben, quels que soient les tuyaux, à la fin, il faut payer.
Et là, justement, qui seront les payeurs ?
Ah ben c'est le sujet préféré de la classe politique française, celui sur lequel les avis sont les plus tranchés et où on retrouve les vestiges d'un bon vieux clivage gauche-droite, augmenté d'une division entre les populistes et les autres. Et la vraie vedette de ce débat, c'est l'ISF. Pas un jour sans qu'une figure politique de la gauche ne réclame le retour de l'ISF et pas un instant sans que des économistes de gauche, bien sûr, n'expliquent que les riches peuvent payer. Le plus emblématique de ces fans de l'ISF, c'est Thomas Piketty. On connaît tous le réflexe de Pavlov, hein, vous savez, une réaction automatique, oui, toujours la même, à une stimulation de l'organisme. Eh bien, il y aura désormais le réflexe Piketty, un problème, un ISF, une dépense budgétaire, un ISF, un besoin d'argent public, un ISF de l'ISF. Partout, c'est simple, cet économiste militant n'a plus que ce concept à la bouche.
Ouais, enfin, il n'est pas le seul, hein, c'est un sujet très défendu à gauche.
Ben oui, c'est simple, hein, la crise sanitaire a dévasté nos finances publiques et creusé la dette, et puisqu'il faudra rembourser, eh ben, les riches peuvent payer. C'est un concept vieux comme la lutte des classes, laquelle n'a pas donné, que l'on sache, d'excellents résultats. Mais c'est égal. Pour les militants de la cause ISF, une crise sanitaire, même si elle n'a rien à voir avec la répartition des richesses, même si le capitalisme ou le libéralisme n'ont aucune responsabilité dans ce drame, eh bien c'est l'occasion de taxer les fortunes. Et tant pis si la France est déjà le pays qui taxe le plus à la fois ses ménages et ses entreprises. La France est le pays où la redistribution est déjà la plus forte et réduit le plus les écarts de richesse. Tant pis si ces fortunes qui obnubile Piketty ont fondu de quelques dizaines, quelques centaines de milliards d'euros avec la chute de la bourse. Puisqu'il en reste, il faut le reprendre. À ce stade, ce n'est plus de l'économie, c'est de la démagogie.
L'opinion de Nicolas Bétou, tous les matins dans votre matinale, juste avant 8h.
Europe 1, à suivre sur Europe 1, nouveau journal et la météo de Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol, quel temps aujourd'hui ?
Si vous regardez le soleil, vous verrez que de temps en temps, même assez souvent, sur la moitié nord, il va tenter de cajoler les nuages pour les écarter et venir vous rejoindre. Parce qu'en fait, le soleil, il a envie de venir vous voir. Et c'est cette volonté que l'on va ressentir aujourd'hui. Certes, les nuages sont là, certes, nous avons des petites pluies près de la Manche et la mer du Nord, mais au fil des heures, vous allez vous apercevoir que le ciel va s'écarter légèrement, et les rayons de soleil viendront vers vous. Et ce sera le cas tout au long de cette journée sur la moitié nord, alors que sur les régions du sud, nous aurons simplement un voile, mais c'est un voile vite dissipé et qui laissera passer là cette fois la chaleur, puisque ce sera un temps chaud pour beaucoup d'entre nous. 31 degrés à Lyon, 32 à Valence, 30 à Toulouse, 29 à Nancy, à Colmar et Limoges cet après-midi, 28 à Bourges, 27 à Paris, 26 à Bordeaux, 24 à Lille, 22 à Caen. Profitez de cette journée parce que demain, ça sera plus difficile. Le soleil aura bien du mal à écarter les fameux
nuages. Merci Laurent Cabrol et bonjour François Geffrier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
8h sur Europe 1, très bon réveil.